Le vendredi 3 mai, pour vous, Français qui vivez à l'étranger, c'est la date limite pour vous inscrire sur les listes électorales consulaires afin de pouvoir voter aux élections européennes de juin 2024. Ne tardez pas, rendez-vous sur service-public.fr.
Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous, membres de Côté Club, le magazine inclusif de toute la scène française. C'est votre rendez-vous quotidien parce que la musique, c'est tous les jours qu'on remet le son sur France Inter, même si ma grand-mère est hésitante ce soir. Le son ce soir, il est bourré d'images, de cinéma, de séries, de génériques télé ou d'images imaginées pour nos deux invités, Gaspard Claus et Nathaniel Méchali. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
Gaspard Claus, Tancade, c'est votre premier album, un disque instrumental avec en son centre le violoncelle pincé, gratté, caressé pour un voyage intérieur sur une île, Tancade, une île difficile d'accès paraît-il, mais ça vaut le coup. Sur la pochette, les corps sont tout nus. Nathaniel Méchali, vous signez la BO de la nouvelle série suédoise de Canal+, Shadowplay. Oui, comme le titre de la chanson de Joy Division, Shadowplay 8 épisodes pour un thriller à Berlin au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Marion ?
Mercredi, c'est le jour des nouveautés nouvelles dans Côté Club, avec les sons de Palatine, de Clément Walker et d'Albin de la Simone avec Yael Naïm.
Côté Club, c'est ouvert entre vos oreilles.
Côté Club, Laurent Goumard sur France Inter.
Nathaniel Méchali, Gaspard Claus, question rituelle, inaugurale. Vous connaissez-vous ou vous êtes-vous googlisé ?
Alors,
Nathaniel a googlisé manifestement. Non,
pas du tout. Je connais pas Gaspard. J'ai juste vu que tu étais violoncelliste et ça, je me suis dit, cool, c'est la revanche des violoncellistes.
Ce soir, oui.
Bah, Nathaniel vient de se présenter en me disant qu'il était aussi violoncelliste. J'étais tout surpris et un peu embêté. Je me suis dit, mince, il me connaît, je le connais pas.
Et vous allez voir, vous avez pas mal de choses en commun.
Maintenant.
Et surtout, on a une heure pour faire connaissance et vous avez pas mal de choses en commun. Donc, tous les deux compositeurs, le violoncelle et le cinéma. On commence. Nathaniel Méchali, vous signez la BO de la nouvelle série suédoise Shadowplay sur Canal+. Gaspard Claus, c'est le premier album. On va parler de tout cela ensemble. Mais d'abord, le violoncelle qui vous réunit. À quel âge vous commencez chacun pour qu'on voit un petit peu si vous avez à peu près le même parcours. Gaspard, quel âge ?
Très jeune. J'avais 5 ans quand j'ai pris mon premier cours de violoncelle.
Et pour vous, Nathaniel ?
8 ans. Après du piano. Et puis, j'avais envie de faire du violoncelle parce que je trouvais qu'ils n'étaient pas assez nombreux à l'orchestre.
Pour cette raison-là,
voilà.
C'est un choix personnel dans les deux cas.
Ah ouais, moi c'était un coup de cœur. J'ai un père musicien qui joue de la guitare.
Oui, guitare flamenco.
Guitare flamenca, et je jouais de la guitare d'après les photos.
À l'âge de 5 ans.
Avant ça.
Avant 5 ans, 3 ans.
Il y a des photos de moi à 2 ans avec une petite guitare jouée qui accompagne la Rosellito, qui est une des plus grandes danseuses flamenco de l'histoire. Mais bon, on n'a pas le son. Peut-être c'est tant mieux. Et on est allé voir un concert des Flair Claret, et dans lequel il y avait Louis Claret, le violoncelliste, et j'étais fasciné. Et je suis rentré, j'ai pris la guitare, je l'ai mise à la verticale, et j'ai frotté les cordes avec une cuillère en bois, paraît-il.
Et c'est comme ça que ça a commencé. Et pour vous, alors, à l'âge de 8 ans,
Et moi, c'est le son, c'est l'attraction de la beauté de l'instrument, quelque chose d'assez visuel, en fait, qui m'a amené au violoncelle. Et puis, je sais pas, cette attirance pour les graves, en tant que gaucher, peut-être que mon oreille avait plus tendance à être attirée.
Vous pensez que ça a un lien ?
Je crois qu'on a souvent un lien avec la manière dont on parle et les instruments.
Ça, je ne connaissais pas cette histoire.
Formation classique, j'imagine, pour les deux. Conservatoire ?
Ouais.
Gaspard ?
École de musique de Bagnols-sur-Mer. On était deux élèves la première année. Le second, Joseph, a abandonné.
Je me suis retrouvé un cours particulier.
Non, elle voulait pas venir. Alors, c'était la toute première prof. Je ne sais plus comment elle s'appelait. Elle me disait, au début, on apprend à tenir l'instrument. Elle me disait, prends-le comme une femme.
Ah oui. À 5 ans.
J'avais 5 ans. Et il y avait toute une technique comme ça de tenue. C'est vrai que c'est un corps très proche
très fort,
De celui de la femme.
De l'homme.
Manifestement. De l'homme, de l'humain, oui.
Et ensuite, conservatoire jusqu'à mes 16 ans, où j'ai fait ma crise d'ado et j'ai dit, non, ça m'intéresse pas de prendre la place du pupitre qui est devant moi à l'orchestre.
Ah ouais, pareil.
Cette compétition. Mon père, j'ai dit, je veux pas faire ça comme ça, je veux faire ça autrement. Mon père m'a dit, oh, c'est une manière de dire que t'arrêtes. Et il a fait tort. J'ai arrêté pendant 6 ans, j'ai pu toucher, puis je suis revenu.
Et de façon plus iconoclaste, on va en parler. Pour vous,
pareil.
Vous vouliez pas être,
Non, c'est pour ça, conservatoire, éducation classique, conservatoire de Marseille. où j'y étais très heureux. Et puis, un jour, dans le concerto d'Haydn, en do, que tu connais, je me suis retrouvé en face d'une cadence, et trou de mémoire, je me rappelle plus de la cadence, et là, je me suis mis à improviser. Et ce jour-là, je me suis dit, peut-être que j'ai autre chose à faire que de jouer de la musique classique et d'être dans les sentiers battus. Voilà.
Vous composez tous les deux au violoncelle. J'imagine, oui, pour vous encore, Gaspard Claus. Vous composez au violoncelle?
Oui. C'est-à-dire, à l'ancienne même un peu. J'ai un micro, une carte son, un ordinateur. J'appuie sur le bouton rec. Je fais ma prise. Si ça va pas, je la refais. Parce qu'on compose beaucoup aujourd'hui aussi avec des faux instruments avant de finalement les repasser par dessus avec des vrais instruments. Ouais. Et ça fait que je travaille très lentement par rapport à d'autres.
À l'ancienne. Et pour vous, Nathalie?
Et moi, en fait, oui, j'ai commencé à écrire un peu au violoncelle mes premiers jingles pour la télé. Et puis, petit à petit, je me suis mis au piano. Je me suis bâti tout un studio d'enregistrement. Et j'ai fait une espèce de boucle où je suis revenu au piano pour vraiment poser mes harmonies, mes accords et trouver des mélodies, en fait. Parce qu'on est un instrument monophonique. Ouais. Voilà. Donc, on a beaucoup de mal à s'accompagner. Et voilà.
Vous parliez d'habillage pour la télévision, les génériques, ça a été un grand moment de votre parcours, une formation intense. On écoute celui-ci.
La marche du siècle, chez Jean-Marie Cavada, j'avais 23 ans, il fallait que j'écrive une musique par semaine sur des sujets de société parfois pas faciles, avec une actualité vive, comme par exemple la mort d'Yitzhak Rabin ou le mercredi matin, émission spéciale le soir, il fallait que j'improvise quasiment en direct une musique pour le générique de l'émission. Et chaque semaine, il fallait que ça soit thématique par rapport au sujet de l'émission. Mais c'était un exercice formidable.
J'imagine, voilà,
une formation, et puis aussi au sein d'une rédaction, en fait, puisque j'étais le musicien de la rédaction, et ça, j'ai adoré ça.
Autre son de générique. Paris Première.
Oui, Paris Première, Anne Caminade, directrice artistique, a créé l'identité sonore, tout un monde, un univers, une réflexion sur des musiques qui n'existent pas, trouver un son, trouver une signature et une personnalité à ces chaînes, en fait. Voilà. Et moi, j'ai beaucoup aimé faire ça. Ça a été extrêmement formateur dans mon parcours musical.
Ça a été une révolution aussi, Paris Première. Enfin, le générique de Paris Première.
C'est celui des années 2000.
Oui, c'est le générique des années 2000 qui a enfanté bon nombre de génériques par la suite.
Oui, ça a été un peu une identité hyper marquée qui a été reprise après par France 2, France 3, etc. C'est devenu un phénomène de mode, cet habillage.
On va partir tout de suite sur un autre chemin avec Laura Cahen. Elle est désarmée, Laura Cahen, extrait de son dernier album, Une fille qui m'a hanté tout l'été.
J'ai tant marché que mes pieds se sont brisés. Le temps s'écoule et moi je coule tant qu'il est temps. J'ai tant
Gaspard Claus et Nathaniel Méchali sont les membres de Côté Club ce soir. Nathaniel Méchali, compositeur dans beaucoup de domaines, générique télé, on vient d'en parler, la scène aussi pour la danse, le cinéma, les séries télé, ça tombe bien, vous signez la BO de Shadowplay, la nouvelle série suédoise sur Canal+, signée par le duo, je vous laisse dire leur nom.
Måns Merling et Björn Stein.
C'était pas si difficile en fait. Que vous connaissez bien puisque oui. C'est la troisième collaboration. Oui. Shadowplay, ça rappelle quelque chose.
In the shadow play, acting out your own death, known no more. As the assassins all grouped in four lines, dancing on the floor.
Identification de ce que l'on entend.
Joy Division.
Ouais. Une reprise.
Une reprise, une volonté du réalisateur évidente d'avoir appelé sa série Shadowplay en hommage au texte de Joy Division et à cette musique. Et puis, Mant m'appelle, me dit Nat. Je suis avec les producteurs, on a une grosse idée là, ça serait de refaire une reprise de la chanson de Joy Division qui m'a servi comme base pour écrire la série. Tu peux nous faire quelque chose? J'étais avec Lily, on était en train de faire son album et je lui dis bon bah ok, je te rappelle dans 2 heures. Voilà.
Et ça donne ça.
Et ça donne ça.
Donc une reprise de Joy Division qui donne son nom à cette série qui se passe à Berlin. Berlin détruit au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. On y suit 6 personnages, dont un flic américain qui vient recréer un commissariat, un médecin véreux à la tête d'un réseau de prostitution et bien d'autres. C'est une BO que vous avez travaillée en amont, c'est-à-dire avant le tournage, sans les images. C'est bien ça quand on compose quand même 70 heures pour une
série ? Non, pas 70 heures. J'ai composé 7 heures de musique pour la série. C'était déjà pas mal.
C'est déjà pas mal.
Parce que 70 heures, ça fait beaucoup. En revanche, oui, comme je collabore avec eux depuis 3 épisodes de notre vie, Mantz m'a appelé, Björn aussi, ils m'ont dit, voilà, on va faire cette série, c'est sur Berlin, 1946. D'abord, on a besoin de chansons sur le plateau. Tu vas jouer un rôle dans la série. On veut que tu sois le juif, en 1946, qui joue les suites de Bach,
dans les ruines.
Dans les ruines.
Tout seul.
Voilà, tout seul, et tu symboliseras, le passé, la culture, et peut-être l'espoir. Voilà. Donc, j'avais un peu tous ces ingrédients. Et notamment aussi, il y a une partition de Bach qui n'a jamais été interprétée, qui se passe de main en main dans les épisodes, et vous le verrez. Et donc à la fin de la série, on va jouer cette musique. Voilà, donc j'avais déjà des contraintes, c'est-à-dire des chansons allemandes. Donc c'est Kurt Weill, c'est Schoenberg, c'est Wolf, c'est Mahler, c'est... Voilà, donc je suis obligé, puis 1946, quoi.
Oui, c'est ça, c'est daté.
C'est Berlin après la guerre.
Il va falloir trouver une tonalité.
Il va falloir trouver une tonalité, il faut que ça soit quelque chose aussi d'un peu rêche, parce que ça rigole pas, et d'émouvant. Voilà, donc, et puis ils avaient très envie que je fasse tout au violoncelle. Voilà, et ça n'a pas été facile.
Berlin après-guerre, 6 personnages, quelle tonalité fallait-il trouver? Parce que vous avez trouvé des thèmes pour les 6 personnages. Ouais. Je voudrais justement qu'on écoute un extrait qui donne une idée du travail.
Thank you.
ce n'est pas une reprise.
Non, ça c'est pas une reprise. Alors ça c'est marrant parce que c'est un des morceaux que j'ai fait avec l'orchestre.
Ça s'appelle The Bomb.
Ça s'appelle The Bomb, qui arrive dans le, je crois, 7e épisode. Et en fait, j'ai fait une fugue sur un espèce d'ostinato. Et j'ai là, c'est un espèce d'hommage à Bach, du coup, puisque ça, c'est la, ma façon à moi de l'avoir réimplanté dans le score par son attitude d'écriture. Voilà.
Ça correspond à quoi, cette musique, par rapport au personnage?
Alors, ça correspond à la dualité de Kerin. Voilà, excusez-moi, je me perds un peu parce qu'il y a tellement de personnages dans la série, qui va, comment vous dire, elle doit se venger parce que, bon, enfin, c'est assez compliqué de vous expliquer ça comme ça. Mais donc, elle est dans une forme de dualité. C'est-à-dire qu'elle va mettre une bombe dans le commissariat central de l'histoire de Shadowplay. Et si vous voyez la série, vous comprendrez ce que représente le commissariat. Et elle ne veut pas y aller, en fait. Donc, il y a cette dualité en elle. Et j'ai trouvé que ce mouvement, cette fugue, ça avance et en avance, et elle tend. Et en même temps, il y a une retenue.
Il y a une retenue.
Il y a une retenue. Bien. Voilà. Il y a une retenue émotionnelle qui fait que j'y vais pas, mais finalement, elle y va. Donc, c'est fatal, en fait. Voilà.
Un autre extrait pour mesurer justement l'étendue de ce répertoire pour cette série.
Meine Herren, meine Mutter prägte auf mich einst ein schlimmes Wort. Ich würde enden im Schauhaus oder an einem noch schlimmen Ort.
Là encore, une reprise. Kurt Weill. C'est J.J. Johansson.
C'est J.J. Johansson qui chante.
Qui joue un travesti. Épisode 3. Ah oui, j'ai regardé. Je suis pas allé jusqu'au bout.
Ah, c'est super.
Mais je suis allé jusqu'au 4.
Ok.
Donc j'ai bien vu que c'était
Oui. Ouais. Donc, voilà, contrainte de tournage, on va dire. Mante me dit, Bjorn, pareil, ils me disent, voilà, J.J. va jouer un travesti à l'hôtel, qui prend place dans la situation de la série comme le commissariat. Et ils me disent, voilà, on a très envie de faire une reprise, qu'est-ce que t'en penses? Je dis, bon, on va chercher. Et puis voilà, on a trouvé cette chanson de Kurt Weill qui est vraiment difficile harmoniquement. Et puis on s'est dit, on va la réinterpréter, on va lui redonner un autre élan pour la mettre dans le mouvement de la scène, qui est en fait une scène d'amour, de rencontre entre Claire et Max. Et donc la caméra tournoie, etc. On a JJ qui est en arrière-plan, il y a des musiciens sur scène, donc voilà.
Vous aimez travailler en amont, c'est-à-dire avant même les images? Ça vous arrive aussi de travailler avec les images?
Alors en fait, c'est en deux parties. La première partie, c'est de composer de la musique, c'est-à-dire de me créer mon vocabulaire pour avoir du contenu. Et puis quand je me retrouve face à l'image, eh bien oui, là, je me mets... C'est un autre travail plus technique qui est de faire rentrer ces thèmes, ces idées à l'intérieur et de suivre la narration et la dramaturgie de ce que je vois à l'écran, en fait.
Vous, Gaspard Claus, vous aussi, vous avez... Une expérience de compositeur pour le cinéma, vous comprenez un petit peu ce qui est en jeu justement ici pour cette série?
Oui, ça m'est arrivé aussi. J'ai jamais fait d'aussi grosses œuvres, 7 heures de musique pour un environnement, c'est très impressionnant. En plus, moi j'ai toujours pris ça comme des challenges sur lesquels j'ai énormément appris. Mais je sais à quel point on peut s'arracher les cheveux pour gagner une seconde ou en perdre trois.
Ça crée du gymnastique.
Ouais. Et puis pour se comprendre aussi, enfin là il y a une fidélité avec les auteurs que tu sembles avoir développée.
Oui, c'est le troisième rendez-vous.
Oui,
c'est pas toujours facile de comprendre même ce qu'ils veulent eux-mêmes. Ils n'ont pas les mots quelquefois pour
le
dire.
C'est des histoires de langage et moi c'est quelque chose que j'ai adoré faire, par exemple avec Emmanuel Gras sur Makala, de traduire, de passer du temps à piger ce que voulait dire plus fort pour lui. C'est pas du tout la même chose que ce que ça voulait dire pour moi.
Oui.
Et de finir par comprendre au moment. Ça, c'était beau.
Vous avez travaillé aussi pour le cinéma. Ça demande de comprendre donc ce que veulent les réalisateurs. C'est pas toujours facile. D'autant que vous avez expérimenté depuis le temps plusieurs genres, notamment le cinéma d'action. J'adore la réflexion de Gaspard. Ça ne sonne pas très action. Justement, non. C'est pour Tekken.
C'est Tekken.
Ouais. Nathaniel Michali.
Alors ouais. Tekken.
Film d'action, plutôt ambiante.
Avec Liam Neeson. Non, ça c'est la musique d'introduction en fait, que vous mettez sur là à l'écoute. Et en fait, on a Liam Neeson qui est dans son fauteuil, qui est désespéré. Et sa femme l'a quitté, voilà. Et donc, il est introspectif à ce moment-là. Et c'est une manière d'introduire le film avec avec un sujet, c'est-à-dire de dire, voilà, ça va être l'histoire de cet homme qui va partir à la chasse pour retrouver sa fille. Et on va développer l'idée pendant 3 épisodes.
Alors, il n'y a pas que Tekken, il n'y a pas que le cinéma d'action, il y a aussi le cinéma de Hong Kong avec Wong Kar-wai. Un extrait de la bande originale de Grandmaster. C'était la première fois que vous collaboriez avec lui.
Ouais, absolument.
Manifestement, ça s'est bien passé puisque vous allez le retrouver encore sur une série prochainement. Vous avez fait plusieurs films avec lui.
J'ai fait un deuxième film déjà avec lui qui s'appelle See You Tomorrow, qui est sorti uniquement en Chine. À quoi dire ? C'est une rencontre. C'est un maître de cinéma, un maître de musique. C'est quelqu'un qui m'a transformé.
Un maître de musique ?
Ah oui, c'est un maître de musique pour moi. Ça a été, en fait, ce que disait Gaspard tout à l'heure sur la collaboration et sur l'écoute et de réussir à transcrire ce qu'un réalisateur souhaite, j'en ai fait l'expérience avec Wong Kar-wai, en fait.
C'est-à-dire ? Pourquoi il vous a transformé ?
Il m'a transformé parce que, pour faire simple, j'ai été appelé pour faire les scènes d'action, en fait, au début du film, et puis finalement, il a décidé que j'allais tout refaire. Et en fait, bon, moi je voulais pas parce qu'il y avait un très bon musicien qui s'appelle Shigeru Umebayashi, avec qui il a notamment beaucoup travaillé, et surtout il avait écrit des thèmes qui étaient sublimes. Et en fait, Kar-wai me disait, tiens, un mois et demi pour refaire le film. Mais donc, en fait, je lui ai dit non, je vais pas tout refaire, on va garder des thèmes, on va reconstruire des choses. Et puis en fait, donc une fois que j'ai eu fini tout, de rebâtir toute la musique du film, on était à une semaine du festival de Berlin, il était président du festival, et on écoute dans une salle de cinéma le résultat, et il me dit non, ça va pas. Et donc finalement, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh ben, il m'a dit Nat, be the last man standing, ça veut dire soit le dernier homme debout, ce qui est écrit sur l'affiche de The Grandmaster. Et je suis retourné dans mon studio, j'avais des percussions chinoises et des taïkos et des choses comme ça. J'avais un violoncelle thaïlandais qui n'était pas pratique à jouer, 2 micros, et j'ai écrit le thème du film.
Au violoncelle,
comme ça, dans un jet de colère. Et en fait, pourquoi ça m'a transformé ? Parce qu'en fait, je suis arrivé avec beaucoup de bagages, avec beaucoup d'orchestres, avec beaucoup de choses, en me disant oui, je vais faire ça. Et en fait, il m'a ramené à ce que j'étais. À ma simplicité maximum. Et donc, j'ai appris une leçon d'humilité, de savoir où était ma place en tant que compositeur face à une œuvre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le violoncelle, son fils était violoncelliste, et j'ai compris que c'était la voix off du film. C'est-à-dire, c'est très marrant, parce que quand j'ai vu les yeux de Wong Kar-wai, quand il a passé lunettes, je me suis dit, mais en fait, il ressemble à Tony Leung.
Son acteur fétiche.
Et donc je me suis dit, finalement, le violoncelle, c'est quelque chose de c'est comme un miroir pour lui, c'est une voix qu'il ne peut pas lui dire.
Le fait de jouer du violoncelle, en fait, est-ce que ça signe une tonalité particulière pour les compositions, quelles qu'elles soient ? Parce que le violoncelle, il est associé à un répertoire romantique au départ. Les tonalités sont dans les basses. Est-ce que ça donne une signature ? Nathaniel Méchali, et puis la même chose aussi pour Gaspard.
Oui. Je crois que oui, je crois que le violoncelle, c'est très proche de la voix humaine, c'est comme le sax, il y a une espèce de corrélation. On parlait tout à l'heure avec Gaspard de la relation du corps avec l'instrument, et que l'on prend physiquement en soi, avec une vibration qui se passe au niveau du plexus solaire, voilà, et on ressent très très fort cet instrument comme sa voix. C'est un instrument monophonique, donc oui, il y a un esprit romantique. Voilà, on a envie de chanter avec un violoncelle, on a envie de l'exprimer. Je pense que le grand répertoire, que ça soit Lalo, Dvorak, Elgar, tout le monde s'est essayé à faire chanter cet instrument.
Vous êtes d'accord avec cela, Gaspard Claus ? Vous essayez de faire chanter votre instrument ?
Ouais,
vous avez essayé de vous débarrasser, en fait,
de le faire déchanter un peu. Ouais. Il a, je crois, ouais, parce que je trouve qu'il va très facilement dans cette direction. C'est hyper difficile d'arriver à jouer du violoncelle. C'est-à-dire, contrairement à, c'est pour ça que les enfants se mettent plus facilement au piano, parce que on est beaucoup plus rapidement satisfait. Ça prend du temps avant de sortir un beau son d'un instrument, mais une fois qu'on a trouvé la voix pour sortir un beau son d'un instrument, il se met à chanter presque tout seul l'instrument, et il touche
Immédiatement, il va droit aux larmes, souvent, en plus. Et un petit peu trop. Moi, j'ai pu me sentir écœuré par des Misha Maïski, qui sont par exemple des immenses violoncellistes, mais qui ont du son plein tout le temps, avec un grand vibrato. Et moi, si je fais pas attention, c'est tout de suite vers là que je vais. Et à un moment, j'ai commencé à voir qu'en dessous de ce son plein et de cette beauté très touchante et très proche de la voix humaine, il y a tout un monde un peu plus discret, qui tremble, plus complexe, plus difficile à appréhender et qui, d'après moi, est aussi beau que
oui.
Le reste. Et avec lequel on peut composer.
Tout à fait, tout à fait.
On va vous retrouver tous les deux dans quelques instants. Encore un peu de patience avant la sortie du nouvel album de Malik Djoudi, qui promet des duos avec Isabelle Adjani, avec Philippe Catherine et Lala S sur ce point sensible.
Montre-moi ton point sensible.
Vous êtes chanceux, vous connaissez déjà l'album, vous l'avez entendu à 3h du matin avec Malik Djoudi, c'est ça?
C'était supposé rester entre nous.
Ça. Ah oui, mais non, mais il n'y a pas de off, c'est l'ère de la transparence.
Hein. Oui. Malik nous l'a fait écouter à moi et quelques amis en pleine nuit, il n'y a pas longtemps. Puis il était tard, il disait non, mais je vais vous laisser tranquille, et personne ne voulait le laisser arrêter le disque, on l'a écouté jusqu'au bout.
3h du matin, c'est l'heure à laquelle se réveille Marion Guilbeault.
Sexy. Côté sexy, côté sexy,
club,
les coups
sur France Inter.
Les nouveautés nouvelles, c'est le jour de Marion Guilbeault.
Oui Laurent, des nouveautés nouvelles qui commencent avec des retrouvailles, celles avec le groupe Palatine. 3 ans après leur album Grand Pan, qui séduisait les fans de Timbertimbre comme ceux de Bachung, nous revoilà à nouveau comme envoûtés par la voix claire de Vincent Erard Devet, une des forces motrices de ce quatuor parisien. Palatine donc est de retour avec une chanson, Eleanor. C'est un premier aperçu de leur nouvelle EP, Talismanie, qui sur 5 chansons s'intéresse aux femmes et aux contours changeants de leur représentation. Dixit Vincent le chanteur, ou comment un groupe de rock qui peut assez bien représenter la masculinité dans tout ce qu'elle peut avoir de toxique prend conscience de sa place et de ses actions dans un monde post-MeToo. Alors au-delà de cette épiphanie, cette révélation féministe, on retrouve tout ce qui nous plaît chez Palatine, leur folk mutant, sensuel, leur climat intense et intime, avec toujours cette vibration américaine et une rythmique que n'aurait pas renié Johnny Cash.
Eleanor écrase le regard, l'éclair café de tes espoirs. Toi tu rougis, tu hurles au mépris.
Eleanor, la nouvelle chanson de Palatine. On attend avec impatience la sortie de leur prochain EP. Talismanie, ce sera pour le 5 novembre. Changement de climat avec Clément Walker. Formé au piano dès l'âge de 9 ans par le conservatoire Bach Stravinsky et par des parents musiciens, tous les deux, on sent un petit peu la pression. Un parcours de discipline récompensé par des prix. Mais derrière cet itinéraire studieux, il y a aussi un besoin de s'échapper du cadre, de créer son propre environnement, de se réinventer un peu comme vous deux. Une métamorphose possible grâce à son amour du son vintage, des magnétos à bandes et des claviers. Et c'est d'ailleurs autour d'un synthétiseur que sa proposition musicale va s'organiser, avec des mélodies épurées qui laissent de la place à sa voix éthérée, presque timide. C'est pendant le deuxième confinement que Clément Walker a trouvé l'inspiration pour ce titre étrange, poétique, une douce rêverie électronique. Maudit Mirage est un appel à l'éveil amoureux, une réponse à la solitude urbaine pour lui, l'enfant de la campagne, comme l'odyssée d'un être venu d'ailleurs. Mirage, Clément Walker, avec un premier EP attendu donc pour le 5 novembre. Et on va conclure ces nouveautés nouvelles avec un duo, celui entre Yael Naïm et Albin de la Simone. Un des nombreux duos qui vont figurer sur la compilation tôt ou tard. Ça sortira à l'occasion des 25 ans du label, label devenu la référence du renouveau de la chanson française, mais pas que. Une compilation qui va réunir donc les artistes du label qui vont se reprendre les uns les autres. On aura l'occasion d'en reparler dans Côté Club, à l'exception donc de Yael et d'Albin qui proposent eux cette version inédite, cette chanson écrite ensemble il y a 20 ans. Parole Albin de la Simone, musique Yael Naïm. À l'époque, la franco-israélienne venait de signer chez Tôt ou Tard. Albin était déjà un musicien, un arrangeur accompli. La chanson était restée cachée jusqu'à aujourd'hui. Elle s'appelle Tina Sidli, ce qui signifie en hébreu « épouse-moi ». Et c'est vraiment un mariage, tout en contraste entre leurs deux vibratos, un bijou de mélancolie chaleureuse, comme ces deux-là en ont le secret. Et moi, je veux bien les épouser tous les deux.
Bien sûr, si c'était à refaire, je le referais maintes fois. Si encore je faisais l'affaire, si encore tu voulais de moi.
Bien sûr, si c'était à refaire, je le ferais évidemment. Le cœur et la raison diffèrent, mon amour, mon poison violent.
Tina Sidli, Tina Sidli, Tina Sidli, Tina Sidli.
Pour cela, j'étais bien trop fière. La mort frappait finement.
Si nous avons croisé le fer, c'est dans le coton seulement. Mais mon amour, tu le vois rouge se faire que je voulais blanc.
Tina Sidli, Tina Sidli, Tina Sidli, Betty.
Albin de la Simone. et Yael Naïm. C'est un des titres présents donc sur l'album des 25 ans de Tôt ou Tard, attendu pour le 5 novembre. On va le reparler certainement dans Côté Club. Un titre qui aurait retenu votre attention, Gaspard Klaus, Nathaniel Méchali, entre les trois nouveautés nouvelles?
À l'instant, je me sens tout bercé par ce qu'on écoute. J'étais en train de partir dans mes rêves, donc c'était très beau. Mais le Michael, comment il s'appelait le
président? Clément Walker.
Clément Walker, je connaissais pas du tout, et je suis très très curieux d'aller voir plus avant de quoi il s'agit.
Pareil, oui, j'ai bien aimé le Clément Walker. Ouais. Ouais, très le intéressant deuxième. Avec les sons, les harmonies intéressantes aussi, c'était pas mal.
Côté club
sur France Inter.
Nathaniel Méchali et Gaspard Klaus, la rencontre de deux violoncellistes ce soir dans Côté Club. Tancade, c'est votre premier album, Gaspard Klaus, instrumental, avec en son centre le violoncelle. Premier album, alors même que ça fait plus de 15 ans que vous jouez, composez, dirigez un label, un festival. Qu'est-ce qui vous a retenu?
J'étais très occupé.
Oui, mais quand même.
Justement. En vrai, je me pose encore la question, parce que ça fait longtemps qu'autour de moi, on me demande quand est-ce que tu vas enfin sortir ton disque. Parce que des disques, j'en ai enregistré et sorti
plein,
ouais. Et puis dans lesquels j'étais pas simplement violoncelliste de
bad band. Non, compositeur, mais bien sûr, oui.
Mais à chaque fois, j'ai essayé d'aller composer quelque part. Il m'est arrivé une tuile. Le studio dans lequel je voulais aller m'isoler dans la forêt, finalement, était inondé. Aussi, je devais me mettre un peu la pression. J'imagine que après avoir fait toutes ces musiques qui étaient nées d'échanges, de rencontres, de collisions avec d'autres musiciens qui souvent faisaient pas du tout la même chose que moi, j'étais pas certain que moi seul quelque chose pouvait sortir.
Tout à l'heure, au début de l'émission, vous disiez que vous aviez abandonné le violoncelle, vous l'aviez arrêté pendant 10 ans.
Six ans.
Vous aviez peur d'être enfermé avec cet instrument, et surtout, qu'est-ce qui vous a fait revenir alors?
Alors, j'ai passé des années à un enfant qui est au conservatoire et qui fait les choses un peu sérieusement, pendant que ses copains sont en train de jouer au foot dans la rue, lui, il fait des gammes tout seul dans sa chambre. C'est pas forcément marrant.
Je confirme.
Ouais, vous confirmez vous aussi. D'accord.
C'est des embrouilles avec les parents, c'est de la pression de la part des professeurs, faut s'accrocher, quoi.
Il y a le magnétophone aussi avec les gammes enregistrées. Moi, j'ai pratiqué ça.
T'avais ça? Ah, alors, tu vois. C'est pas assez malin. J'ai pas pensé à mettre un magnéto et passer par la fenêtre pour aller finalement. Mince, faut que je recommence tout. et finalement, il y a un moment où j'ai dit que c'était pas pour moi. Puis je fais partie des élèves énervants. J'étais l'élève doué. Si je travaillais plus, ça serait vraiment vraiment incroyable. Mais j'avais toujours des bonnes notes sans trop
pousser.
Ouais, sans avoir à sacrifier trop du reste de ma vie. Et je l'ai pas jeté le violoncelle. Je me suis installé à Paris et il était dans ma chambre. C'est pas grand les chambres à Paris, donc il prenait beaucoup de place dans ma chambre. Et c'était une présence un peu accusatrice, accablante. Cet instrument.
Je confirme aussi.
Un remords.
Ouais, cet instrument pour lequel on a tellement investi, qui coûte cher en plus à l'achat. Enfin, c'était aussi un sacrifice pour mes parents le jour où il a fallu acheter cette chose-là. Et puis là, il était dans sa boîte et j'y touchais plus du tout. Et un instrument existe parce qu'il est en couple avec un instrumentiste. Donc là, on était dans cette... disons qu'on a fait un break.
Et vous avez renoué.
Et un jour, je ne sais pas pourquoi, j'étais en philo à la Sorbonne et je faisais un peu de cinéma, mais comme acteur. Et un jour, je l'ai sorti de sa boîte et j'ai voulu jouer. Et c'était une expérience très dure parce que je n'arrivais pas à sortir un son de cet instrument sur lequel j'avais passé tant et tant d'heures. Et j'ai pleuré. Et j'ai tourné des partoches les unes après les autres. Et j'avais tout oublié. Rien ne sortait. Et il s'est passé que j'avais des cahiers d'études, là, les Dotsauer, les Popper, qui sont noirs de croches et il y avait une double page dont moi je me souvenais pas, alors que les autres je m'en souvenais. Mais il y avait des annotations dessus. Et donc j'ai joué les trois premières notes. J'ai vu ma main gauche et ma main droite. Défiler la partition, mémoire organique, mais vraiment comme dans la famille Adams, la main là qui se balade
toute seule.
Ouais,
c'était le corps qui se souvenait, quoi.
Ouais, c'est ma main sur le manche, quoi. Et de là, j'ai pu refaire sonner mon violoncelle. Et après, je sais plus. Je suis musicien aujourd'hui et c'était pas le but. Et je sais plus ce qui s'est passé.
Vous avez traversé ce même type d'expérience de haine et d'amour avec cet instrument.
Bien sûr, c'est un tuteur, c'est un morceau de bois qu'on a entre les jambes. À vie,
parce qu'on est marqué quand on est violoncelliste, parce qu'on a travaillé dur, parce qu'on a fait des gammes, parce qu'on a fait des arpèges, on a fait des doubles cordes, des positions au pouce, enfin bref, que des tortures physiques. Et notre corps, il est marqué par ça. Et je rejoins tout à fait ce que dit Gaspard, parce que c'est de mémoire physique, c'est quelque chose qu'on vit de l'intérieur, pleinement.
Alors, vous êtes le fondateur du label Les Disques du Festival Permanent, du trio de cordes Vacarme. Vous avez travaillé dans beaucoup de registres, violoncelliste tout-terrain, d'ailleurs, je lisais dans un article. Mmh. Musique contemporaine, de la pop avec Barbara Carlotti, Peter Von Paul, de la musique de scène, de la musique électro avec Rhône, on en parlera tout à l'heure. Marion Cousin aussi. Mais tout de suite, on va écouter quand même ce que vous signez en votre nom propre. On a tous envie et hâte. Tout de suite, on écoute La Foule. Un extrait de Tancade, premier album de Gaspard Claus aux allures de BO d'un film qui serait sans image. Un album très particulier parce que, en fait, vous êtes le seul à jouer du violoncelle. Pour autant, on a l'impression qu'il y a tout un orchestre. Comment vous allez traduire ça sur scène? Et comment ça se passe d'ailleurs, puisque...
La scène?
Ben ouais, non, mais la scène et même l'enregistrement. C'est-à-dire, vous êtes le seul à jouer du. C'est des boucles, c'est
l'enregistrement, c'est la magie des studios.
Les superpositions.
On est plus plasticien quand on est en studio et qu'on fait ce type de musique que musicien dans le sens où on s'inscrit dans l'espace. Souvent, on a un plan sur lequel on a des structures qu'on déplace, qu'on passe les unes devant les autres. On élague, on coupe, on cadre. Et effectivement, dans ce cas-là, j'ai enregistré puis réenregistré. Finalement, à force là de, j'ai passé 5 ans sur ce disque et puis là, ça y est, il est là. Et...
Enfin.
Et puis, en plus, je parle que de ça en ce moment parce qu'il est en train de sortir. Mais je réalise doucement que J'ai passé toutes ces années à aller chercher ce qu'il y a, quelles sont les sonorités possibles de cet instrument, en deçà ou au-delà du son plein et rond qu'on m'a appris à jouer au conservatoire. C'est infini, la richesse, les capacités de cet instrument. Et je les ai toutes utilisées sur des lignes droites, c'est-à-dire en improvisation, en duo, mais toujours avec une ligne de violoncelle. Et en fait, ce que j'ai fait là, c'est faire jouer ensemble tous ces violoncelles qui habitent le mien. Et qui sont très différents les uns des autres. Et c'était ça mon projet, je m'en rends compte là.
Autre extrait, 2359. Voilà, je voulais juste un extrait pour qu'on mesure l'étendue du registre de vos violoncelles, même s'il est tout seul. Nathaniel Méchali, comment vous écoutez cela ?
Alors, j'écoute ça avec beaucoup de plaisir parce que ça me touche énormément. Et en fait, ce que j'aime, c'est l'innocence, l'approche de la bonne innocence, c'est-à-dire de pas intellectualiser les choses, de pouvoir prendre un instrument et de le faire vivre comme ça, au-dessus, en dessous, en superposant. Moi, j'aime beaucoup ça. Et je trouve que c'est très cinématographique, d'ailleurs.
Oui.
Tancade, c'est le titre de cet album. Ouais. Ça serait une île, elle existe ou pas ?
Alors c'est pas une île, c'est une plage.
C'est une plage.
Le premier morceau du disque s'appelle Une île, et ce disque est peut-être une île, cette plage est peut-être une île symbolique aussi. Et la plage de Tancade, elle est un peu secrète, mais elle est au sud de Bagnoul-sur-Mer, mon village natal, enfin là où j'ai grandi.
Plage naturiste, manifestement. Alors, si je vois la couverture, alors,
c'est
la pochette.
Moi, ils sont tous nus sur la couverture, effectivement. Ils sont 5, deux potes et 3 copines.
Ouais.
C'est une plage qui n'est pas officiellement naturiste. Enfin, il y a 3 ans, comme on se faisait engueuler l'été par les touristes du mois d'août qui sont un peu particuliers et qui voulaient qu'on se rhabille pour pas choquer leurs enfants, on a fini par mettre nous-mêmes des panneaux plage naturiste qui restent, qui y sont encore. Et le conservatoire du littoral, ça les a bien fait marrer quand ils ont appris que ces panneaux avaient été posés pour nous. Donc elle est naturiste maintenant.
Je voudrais qu'on écoute un dernier son avec une collaboration familiale cette fois. Gaspard Claus, c'est vous au violoncelle, c'est votre père, Pedro Soler, à la guitare flamenca, pour une collaboration. Il y a eu 2 albums avec lui, vous avez travaillé souvent en collaboration. Est-ce qu'il vous a transmis quelque chose dans le doigté, dans le rythme, dans le rapport à l'instrument, ou vous êtes construit contre lui ?
Un peu tout ça à la fois, c'est... On a fait 3 disques ensemble.
Trois disques.
Un troisième avec Inès Bacan, une chanteuse. J'ai fait mon chemin. Je suis pas un disciple de mon père. Comme d'autres fils et pères qui travaillent ensemble, j'en connais. Et ils font tout ensemble. Là, il y a cette passation comme ça. Moi, j'ai fait un long trajet de mon côté et on s'est retrouvés. Et là, on a commencé à échanger et on s'est beaucoup appris l'un l'autre. Je pense qu'il dirait la même chose s'il était là avec nous. Ce qu'on entend, il y a un troisième personnage, c'est la pétainère. C'est dangereux de jouer ça, vous êtes au courant.
Non, pour quelle raison ?
C'est un morceau qui porte malheur, c'est un morceau maudit.
Encore une histoire de studio ?
C'est une histoire de flamenco, de gitan.
Mais... Il y avait des musiciens dans votre famille, Nathaniel ?
Non, pas du tout. En fait, il y a ma sœur qui est chanteuse lyrique, pianiste. Mais moi, ce qui me frappe beaucoup dans la musique de Gaspard, c'est le mouvement, en fait, le geste. J'entends beaucoup de gestes et je trouve ça super de faire vivre le geste par le son, en fait.
Pourquoi c'est pas souvent le cas ?
Oui, parce que nous, on est classique aussi, donc on a les coups d'archer, les doigtés, les machins, mais là, on sent le geste, c'est-à-dire l'attente, le temps, la gestion du temps, les rallentando, l'émotion qui vient pas par la précision, par autre chose, voilà.
Je suis d'accord. Enfin, je te remercie d'en.
Bah, je t'en prie. Mais c'est ça, ça me touche ça, parce que je trouve qu'on a envie de ça maintenant. On a envie de sortir un peu des trucs classiques et on a envie d'entendre les instruments un peu différemment, je crois.
Eh ben, c'était la leçon de ce soir. Merci à vous deux. On va se quitter avec la rencontre au sommet entre François-Marie de François and the Atlas Mountains et les surdoués du rock français, les Istrata, sur ce titre revu. Bien entendu, sur France Inter.
Je l'ai revu au coin de la rue. Il voulait me faire croire au hasard. J'avais toujours voulu le revoir. Et il était soudain réapparu. Je l'ai emmené chez moi pour qu'il revoie. Qu'il avait fait de nous, ceux des gens qu'on n'avait pas revus. Le soir venant, il est retourné à la rue. Je pensais à lui, sa bouche la même et ses yeux pointus, sa voix, il n'avait rien perdu, c'était le même que j'avais aimé, que j'avais aimé. Que j'avais aimé. Que j'avais aimé. Le jour d'après, il est revenu. Les poings serrés et la bouche cousue. Il voulait me confier un secret. Au lieu de ça, il m'a embrassé. Il a tout gardé. Et il a tout gardé.
Et bien voilà, côté club, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à vous deux. Gaspard Claus, je rappelle l'album, c'est Tancade, avec une tournée le 11 à Lorient Festival Dehors, le 13 le Trianon avec Rhône à Paris, le 22 à Senon, le 23 à Angers, du 1er au 3 octobre Lyon pour l'Opéra Underground, d'autres dates, puis retour à Paris, le 14 novembre au 104 pour l'anniversaire In Fine avec Vanessa Wagner. Nathaniel Méchali, merci à vous.
Merci.
On se jette sur la BO de Shadowplay, la nouvelle série de Canal+, en attendant vos autres aventures cinématographiques. Ça, c'était pour aujourd'hui. Mais demain...
Aimer, si seulement tu pouvais éliminer toutes ces rancœurs, les broyer dans la bonne humeur.
Un message d'amour, manifestement, avec Trio, nouvel album Champ de bataille. À leur côté demain, Don Nino avec un nouvel album folk rock. Marion.
On va prendre le pouls de la planète avec Le cœur du monde. C'est la nouvelle chanson de Bernard Lavilliers.
Côté club, c'est l'équipe du soir qui veille sur vous. Une émission réalisée par Stéphane Le Guenec, programmée par Marion Guilbeault, Alexis Goyer, Virginie Rouzic. À la technique ce soir, Sofiane Aktib et Valentine Chedebois aux playlists. Alors voilà, côté club, on ferme. Que la musique soit avec vous.